bien évidemment, si vous voulez, hein, l'agriculteur que je suis doit concilier en fait un impératif de production avec des impératifs environnementaux. Et en fait, à peu près tous les agriculteurs en France cherchent finalement à avoir une équation économique qui soit possible sur leur exploitation. Et aujourd'hui, les solutions qui s'offrent à un agriculteur ne sont pas pléthoriques. Donc en fait, effectivement.
Vous faites de la betterave, par exemple?
Bien évidemment.
Vous êtes confronté à la jaunisse de la betterave,
c'est ça? Sur mon exploitation, 30 hectares de betterave, moyenne quinquennale, moyenne sur 5 ans, 85 tonnes de rendement. Le jour où la jaunisse, dès la première année de suppression d'une molécule qui s'appelle les néonicotinoïdes, 25 tonnes de rendement sur une année, dès la première année. Voilà. Et en fait, moi, à mon échelle, si j'avais une autre solution pour mettre en pratique et pour préserver ma culture de betterave, bien évidemment que je le ferais.
Vous le faites à
comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui? En fait, ça fait 5 ans, 70 ans que le gouvernement met en place des politiques au niveau européen et français, donc pas seul, hein, avec toute l'Europe, mais qui visent à soutenir une agriculture productiviste qui utilise des pesticides. Le gouvernement a même poussé pour l'utilisation des pesticides. Donc effectivement, quand aujourd'hui on arrive avec des normes sans soutenir financièrement les agriculteurs, ils se retrouvent parfois dans un impasse technique, ça peut arriver, mais surtout avec une difficulté pour les mettre en œuvre. Il y a des questions de temps. En fait, la présentation que vous avez faite des positionnements à ma droite et à ma gauche, en fait, je les rejoins. Je pense qu'on a besoin de temps, mais surtout on a besoin de moyens. Et
donc
aujourd'hui,
vous comprenez la suspension de ce plan Ecophyto, si
Ah non, par contre, non.
Il est mis sur pause jusqu'au salon de l'agriculture. Oui. Hein, c'est pendant 3 semaines. Hein,
oui, c'est 3 semaines. Non, parce que ça, c'est, en fait, c'est une mesure purement qui est symbolique mais dramatique, parce qu'en fait, ce plan devait annoncer justement des moyens pour atteindre la réduction des pesticides. Les différents plans Ecophyto, c'est pas nouveau. Hein, ça fait des années que ça existe.
Sous Nicolas Sarkozy en 2008.
Justement parce qu'on manquait de moyens. Donc l'idée aujourd'hui du nouveau plan Ecophyto, c'était justement de mettre des moyens sur la table. Donc faire une pause sur ça, en fait, c'est faire une pause sur donner les moyens aux agriculteurs de réduire les pesticides. C'est complètement contre-productif pour tout le monde.
J'aimerais dans tous les deux. Oui et non. Ah. On est parmi les plus gros utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'on a une très grande surface en vignoble. Et on regarde, vous voyez les cartes. Alors c'est rigolo parce que c'est à la fois des cartes géologiques où on voit apparaître les bassins sédimentaires, mais en même temps, je suis bordelais d'origine, hein, ce sont les zones viticoles qui consomment beaucoup, zones d'arboriculture aussi.
Donc, hors vignoble.
Mais autrement, non, on a une agriculture, si on ramène à la tonne de produits, puisqu'on a une agriculture qui produit bien, on a des bons rendements aussi bien en production animale qu'en production végétale. Et puis ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes les agricultures françaises utilisent des produits de protection des plantes. L'agriculture biologique également. La bouillie bordelaise, le sulfate de cuivre, n'est pas dangereux pour l'homme. Mais tous les gens de pays de vignes savent que derrière une vigne, quand on arrache une vigne, pendant 2, 3, 4 ans, on ne peut rien cultiver. Le sulfate de cuivre, qui aujourd'hui ne serait sans doute pas homologable en conventionnel, est dangereux pour le sol. C'est pour ça
qui font de la biodynamie, on l'utilise.
C'est pour ça qu'il y a des. Il y a aujourd'hui des plafonds.
Et ceux qui font de la permaculture n'utilisent pas d'insecticides et de fongicides.
C'est l'argument ramené par l'agriculture.
Le soufre et le cuivre. Et qui, au début, faussaient les. Les ratios là dans les évolutions, parce que c'est des c'est très pesant, c'est des produits lourds, donc quand les indicateurs étaient très sommaires au tout début, ça pompait les chiffres.
Damien Graffin, c'est le début qu'il a renoncé, hein. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues sur le glyphosate, sur même sur du quota alimentaire, hein, sur le chèque alimentation qui vise aussi à soutenir l'alimentation, mais qui permet de soutenir les filières agricoles dans le changement. Donc en fait, il a renoncé une fois de plus. On l'avait déjà vu aussi au moment du lancement de la guerre en Ukraine, l'agression par la Russie, où la FNSEA, en l'espace de 48 heures, avait déjà obtenu des dérogations sur les jachères. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie du choc. En fait, dès qu'il y a un choc, une guerre, la colère des agriculteurs, là, dans une crise, comme on l'a vu aujourd'hui, elle s'engouffre dans la brèche. L'agro-organisation rurale, c'est pareil. Elle s'engouffre pour pousser des mesures qui détricotent les rares avancées environnementales.
Je pense que le pacte vert, le fait de dire qu'en 2050, l'Europe est un continent neutre au niveau
carbone
et enfin gaz à effet de serre, pas que le carbone. Hein. L'agriculture est très concernée par le méthane et le protoxyde d'azote. Ça me paraît pas une ambition, c'est une ambition très très forte, mais pas démesurée. Après, moi, je crois que tout l'enjeu, c'est de ne pas aller trop vite par rapport aux agriculteurs, parce que c'est un changement important. Vous comme moi, quand j'étais salarié, quand on change quelque chose dans l'entreprise, y compris une stratégie majeure, nous, notre paye, on risquait rien. L'AMIA, quand il change les techniques, quand
il
change les techniques sur son exploitation, à chaque fois, il joue son casse-croûte. Mm-hmm. Enfin, une partie de son casse-croûte. Donc, voilà. Et donc, il faut un accompagnement. Il faut que la recherche se mobilise davantage
pour trouver des alternatives,
pour trouver des solutions.
Fongicides,
il faut que nos concitoyens. Et là, je ne suis pas dans les. Il n'y a qu'un faucon, hein. Ouais. Mais il faut.
Enfin, il y a 250 millions qui ont été mis sur la table sur les alternatives, on n'en a toujours pas.
Mais 250 millions, qu'est-ce que c'est?
Mais alors, c'est juste un manque de moyens, alors, en fait.
C'est un manque de moyens et de mobilisation des équipes. Mmh. Et puis, nous, citoyens consommateurs.
On a une responsabilité.
On a une responsabilité à plusieurs niveaux. On a une responsabilité dans ce qu'on achète, notamment si on achète des produits bas de gamme importés. Mmh. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas toujours. Mm-hmm. Que la nature de ces produits, toutes les questions d'étiquetage. Et je crois aussi qu'il faut qu'on accepte que c'est un changement qui est très important, techniquement. Donc, il faut à la fois accompagner les agriculteurs, mais il faut aussi leur donner les moyens de cette transition. Mm-hmm. Et les moyens, ils sont, de mon point de vue, génétiques, recherche génétique, amélioration génétique. On a aujourd'hui des techniques d'édition génomique qui ont valu à la France un prix Nobel dont on a tous été très fiers, qui ne sont pas des OGM, puisque ça modifie dans la même plante, mais il n'y a pas d'introgression d'un gène étranger. Et deuxièmement, il y a la question de l'eau. On peut le prendre par tous les bouts, on ne fait pas d'agriculture sans eau. Alors, il faut bien qu'on... Et on sait que la pluviométrie de la France sera la même, mais répartie autrement, avec des étés plus longs, plus secs et plus chauds. Donc, il faut qu'on ait de l'eau, et il faut en même temps qu'on développe des techniques de production qui soit économe en eau. Mais il faut qu'on fasse les deux. Et on ne peut pas bloquer là-dessus comme ça bloque aujourd'hui.
Aujourd'hui, je pense que le problème fondamental, il est de se rappeler pourquoi est-ce qu'on parle d'écologie. En fait, quand je vois les médias titrer la grande perdante sont les ONG ou les écologies. Mais pas du tout. La grande perdante, c'est notre santé, celle des sols, celle des agriculteurs. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une urgence. Et aujourd'hui, c'est qui est celle de préserver la santé des écosystèmes pour qu'on puisse produire. Le dérèglement climatique, il ne faut pas oublier que ça va entraîner une perte de rendement. Ça va impacter directement l'ensemble. Aujourd'hui, la MHE, cette maladie hémorragique qui touche des troupeaux bovins dans toute la France, enfin bientôt dans toute la France, déjà dans le sud-ouest. Elle provient du changement climatique. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se donne les moyens d'attendre ça. En fait, on ne peut pas dire que ça va trop vite. La question qu'il faut se poser pour moi, c'est comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette urgence-là qui n'a pas été définie par les écologistes. C'est ce qu'ont fait les humains. C'est ce qu'ont fait les humains qui nous amènent à cette situation. Donc on a besoin d'y répondre. Et les réponses technophiles, on voit bien où est-ce qu'elles nous ont menés jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à des impasses répétées. Donc on reviendra peut-être sur le sujet des mégabassines après, mais en attendant...
Non, parce que...
Il est clair, quand les écolos et la gauche disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de contradiction entre l'agriculture et la transition écologique, ce n'est pas vrai. Damien Greffin, est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il y a un divorce entre vous et les écolos?
Bien évidemment, parce qu'en fait, moi, en tant qu'agriculteur, je pense qu'en fait, c'est moi qui porte la responsabilité de l'écologie en France, personne d'autre. Si ce ne sont pas les agriculteurs qui embarquent cela, je pense qu'en fait, on peut disserter longtemps.
C'est pour ça qu'on est exigeant de vous. Est-ce
d'accord,
qu'on est trop
mais en fait, on a des impératifs, en fait, comme je le disais. C'est-à-dire que moi, il faut aussi que je vive de mon métier. Et qu'à un moment donné, si cette société refuse toute forme de progrès, toute forme d'innovation, toute forme de recherche, ben, en fait, on condamne l'agriculture. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas mon sort, en fait, qui est important. C'est est-ce que ce pays souhaite conserver des capacités de production agricole. Parce qu'en fait, on peut s'émouvoir du sort de quelques centaines de milliers de paysans aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que la France veut garder des capacités productives.
Mais de plus de temps ou de plus
non,
de
mais en fait,
recherche.
Vous savez, nous, on a ce mouvement dont on sort. Il y a 9 Français sur 10 qui le partagent et qui nous soutiennent. En fait, il faut mettre des moyens, une ambition au service des agriculteurs.
Oui, mais
les agriculteurs
des grands mots, précisément.
Bah, plus précisément. Moi, j'ai commencé, avant de m'installer, j'ai eu la chance de faire un voyage au Canada.
Oui.
Et j'ai visité une exploitation qui faisait du colza, il y a 25 ans, 30 ans. Cette exploitation, elle faisait déjà la moitié ou trois quarts de sa surface en colza OGM. C'est bien, c'est mal, mais ils utilisaient zéro pesticide. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on est en capacité, finalement, d'accepter dans notre pays comme bénéfice-risque par rapport à de l'innovation.
Alors, testons les OGM, vous.
Je
vous pose la question.
Moi, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'en fait, si le problème sont les pesticides, et que le problème, c'est aussi les OGM, et que demain, le problème, c'est aussi la recherche, et c'est aussi les NBT, et qu'on veut...
On n'est pas contre la recherche. Enfin, les écoles ne sont pas contre la recherche ou l'innovation.
Je dis juste, juste qu'en fait, l'agriculteur, il se mettra au service... à partir du moment où il arrive à vivre de son métier, moi je ne suis pas un marchand de phyto, un marchand de produits et de pesticides. Si je peux économiser un litre, ça me coûte déjà suffisamment cher, je le fais. Sauf que je n'ai pas de possibilité de faire autrement.
Lors du coup. Je rejoins monsieur. Bien sûr qu'on a besoin de se nourrir, et on a besoin de nourrir les Français, les Françaises, et puis même un peu au-delà. Mais aujourd'hui, la France, elle importe en partie, mais elle exporte aussi beaucoup. Mais ces exportations, elles sont basées sur l'importation de gaz, de pétrole, d'alimentation animale, OGM notamment. On a un modèle qui n'est absolument pas autonome, qui n'est absolument pas résilient. Donc on veut continuer à produire plus, mais en fait en se basant aujourd'hui sur des techniques ou des façons de produire qui ne sont pas soutenables dans le temps. Et en plus on exporte, alors pas que, on exporte aussi des produits laitiers de haute qualité, mais on exporte notamment du poulet bas de gamme, de la poudre de lait, qui déstructure totalement les économies de pays tiers.
Vous ne pouvez pas les normes, etc., qui nous conduisent à perdre notre souveraineté alimentaire
en fait,
tous les jours.
Il est prouvé aujourd'hui qu'on peut nourrir tous les Européens à 2050 en se passant de pesticides.
60%
de nos produits
sont importés.
C'est prouvé. On peut réfléchir aux flux commerciaux.
Jean-Marie Serroni,
on importera notre lait.
Un arbitrage.
Je suis un peu d'accord avec ce que vous dites. On peut nourrir les Européens. Pourquoi ? Parce qu'on sera moins nombreux et qu'on va faire des économies sur le gaspillage.
Oui. En changeant de régime alimentaire.
Et en changeant de régime alimentaire. Donc ça là-dessus,
on ne fait pas porter la responsabilité aux paysans.
C'est la société.
Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on produit moins à destination.
Nous allons manger moins de viande. Moi, j'ai 67 ans. Je mange moins de viande que quand j'en avais 40 ou 35.
Par goût ou parce que les bovins fabriquent du méthane qui contribue au réchauffement climatique ?
Je ne suis absolument pas végane. J'en ai une qui travaille dans une coopérative qui est agronome. Mes enfants qui ont 35 ans, ils mangent beaucoup moins de viande que moi, je n'en mangeais quand j'avais leur âge. Quand je discute avec les responsables agricoles en particulier, enfin en tête à tête, ils mangent moins de viande, ceux qui ont mon âge, que quand ils étaient gamins. Donc, mais ce qu'il faut que la société, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que, et je suis d'accord avec vous que la solution, elle n'est pas que technophile. Il y a des progrès qu'on ne peut pas refuser, mais en même temps, on ne peut pas continuer comme avant et il faut aller vers une agriculture plus naturelle, qui utilise la nature comme facteur de production. Les micro-organismes du sol, les micro-organismes de la plante. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne fondamentalement, c'est qu'avec tout ça, le métier de Damien et tous ses collègues, le métier d'agriculteur, est plus compliqué qu'avant. Parce que travailler avec la nature à la place des phytos, c'est plus compliqué. Les marchés sont ouverts, les coûts varient tout le temps, donc c'est plus compliqué. Donc il faut les accompagner.